Hello, bienvenue pour ce nouvel épisode de Spiritualista, ton podcast initiatique. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir comme invitée Elisa, connue aussi sur les réseaux sociaux comme la guerrière en pâte. Comment tu vas, Elisa?
Eh bien, ça va super bien, Amel. Je suis très contente de te rencontrer et de vous rencontrer aujourd'hui.
Mais ouais, ça fait un moment que j'ai envie de faire cette interview, tu vois, avec toi, parce que je te suis sur les réseaux et tes vidéos sont toujours d'une richesse et d'une générosité incroyable. Et souvent, quand je les regarde, elles répondent directement à des choses que je vis ou des questionnements du moment. Donc, il y a une espèce de synchronicité trop chouette. Et j'aime beaucoup, en fait, la qualité de tes partages. J'adore quand tu fais des jeux de rôle, en fait, entre le cœur et le mental, entre, tu vois, c'est la petite voix, l'intuition. Enfin, c'est toujours hyper bien joué, hyper impactant et juste. Elisa, bienvenue dans Spiritualista. Première question, est-ce que tu peux te présenter en dévoilant ton parcours initiatique et ton éveil de conscience?
Bien sûr, avec grand plaisir. Écoute, alors Amel, je pense que comme beaucoup d'entre nous, mon parcours initiatique a commencé, alors je vais pas vous raconter ma vie, je vous rassure, bah vraiment mon parcours initiatique a commencé dès la naissance, littéralement,
wow.
Parce que je suis née avec des gros problèmes de santé, et donc j'ai été ce qu'on appelle une enfant malade, enfin tu sais, on disait ça à l'époque parce que j'étais suivie à Necker, qui est un hôpital pour les enfants malades à Paris. Et donc, bon, j'ai fait à tous les hôpitaux de France, mais en gros, voilà, je suis née avec des problèmes de santé, ce qui m'a très tôt appris la résilience et aussi le stress post-traumatique. Bon, bah voilà, on est dans un monde duel, hein, de polarité, donc voilà, l'ombre, la lumière. Tu as fait une vidéo très juste d'ailleurs là-dessus. Exactement ça. Donc moi, je suis née vraiment dans le dur tout de suite. Ce qui en fait, pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est ce qui m'a tout de suite rapprochée. C'est ce qui a tout de suite développé ma foi. Alors, de manière inexplicable pour mes parents qui étaient vraiment, tu sais, un peu dans les années 80, le cliché, j'adore mes parents, hein, mais dans le sens, le cliché des parents profs gauchistes, athées, mais alors vraiment, tu sais, genre c'est dégoûté de la religion, dégoûté, tu sais, des bondieuseries, comme on disait à l'époque. Voilà, donc, alors, c'était un peu, voilà, moi, je suis arrivée, j'ai dit, mais moi, Dieu est avec moi, Dieu me parle, Marie me parle. Et donc, du coup, ma mère m'a amenée à l'église. Ils sont sympas, mes parents, tu vois. Donc, ça a été, non, mais c'est pour ça que je te dis ça, c'est que vraiment, en fait, c'est pas quelque chose qui a commencé à l'âge adulte, c'est quelque chose qui est là depuis toujours. Un peu par la force des choses, parce que j'allais prier à l'hôpital. J'y avais une chapelle, en fait, si tu veux. Il y avait quasiment une chapelle dans tous les hôpitaux, il y a une chapelle. Et moi, c'était vraiment mon refuge. C'était là où j'avais l'impression de, et je disais ça à mes parents, j'avais l'impression de revenir à la maison.
Spiritualista. Alors, Elisa, toi, t'accompagnes les âmes en éveil. Comment on reconnaît une âme en éveil, d'après toi?
Alors, écoute, moi, je ne les reconnais pas. Je ne me lancerai pas là-dedans. Et parce qu'en plus, mais comme tu le sais si bien, Amel, les apparences sont trompeuses dans ce monde. Bon, n'est-ce pas? Voilà. Donc non, moi je ne reconnais pas. En revanche, c'est elle qui me trouve. Voilà. Bon, au début, c'est vrai que c'était plus. Bon, maintenant, je suis un peu plus visible, donc c'est plus facile de me trouver, on va dire. Mais mais au début de mon parcours, ça l'était pas forcément. Mais moi, ça me va très bien comme ça parce que, si tu veux, c'est pas quelque chose pour le moment, en tout cas, que j'ai mis en avant mes accompagnements. C'est quelque chose que je fais dans l'ombre. C'est drôle de dire ça. Non, mais dans le sens où, voilà, c'est vraiment les personnes qui viennent me chercher et c'est toujours très drôle de voir à quel point. D'une manière ou d'une autre, mais je pense que ça doit te faire ça aussi, les parcours font écho, mais parfois sur des choses très étonnantes, quoi.
Complètement. Ouais, ouais, mais on apprend beaucoup sur soi-même, même en accompagnant les autres, c'est ça qui est extraordinaire. Après les séances, je remercie toujours, en fait, parce que je grandis en même temps que les personnes, en fait, et c'est fantastique.
Ouais. Totalement.
Elisa, est-ce que tu as capté qu'il se passe quelque chose, un shift des consciences, que les gens commencent à se questionner, à remettre en question leur conditionnement, leurs anciens idéaux, leur vie? Est-ce que c'est un truc que tu as capté ces dernières années?
Alors, oh, je pense que vraiment, c'est vraiment difficile de pas le capter. Même, et là, je trouve que ça s'est, mais alors vraiment depuis 2023, mais là encore, enfin ça s'accélère. C'est vraiment curieux. C'est-à-dire que même des personnes qui, je sais pas, même tu sais, il y a 6 mois, ne voulaient pas entendre parler. Enfin, tu vois, me disait qu'elle est complètement cinglée, elle, avec son compte. Non, mais tu sais, des anciens potes qui se disent, elle a pété un câble, celle-là. Même ces personnes-là se mettent, tu sais, à ouvrir leur conscience. Exactement. Je l'aurais pas dit. C'est, hein, t'es d'accord, hein?
Complètement, complètement. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton évolution, de ton parcours initiatique? Donc, tu nous as posé justement cette maladie qui t'a accompagnée tes premières années. Comment s'est passé ton parcours en tant que jeune femme, jeune adulte? Est-ce que tu as toujours été connectée à cette foi que tu as cultivée très jeune? Ou est-ce qu'il y a eu parfois cette attraction, répulsion, déconnexion et on revient? Comment ça s'est passé pour toi?
C'est très pertinent comme question, merci Amel, parce que justement, pas du tout, ce serait trop facile. Si tu veux, j'ai eu cette foi m'a toujours accompagnée, mais vraiment, quand j'ai été une jeune fille, comme tu dis, alors, le lycée, ça allait encore, mais quand même, j'ai commencé à plonger dans le dark, on va dire, ouais, à peu près au lycée, et là, après mes années, on va dire jeune femme, tu sais, post-bac, là, vraiment, enfin, toute la vingtaine, ça a été très dark. Là, vraiment, j'ai plongé très fortement dans les addictions. J'ai fini par comprendre aussi que c'était dû à mon stress post-traumatique, tu vois, justement, de ces années d'errance médicale et puis aussi de trifouillage, parce que j'étais malade dans ma chair, donc, tu sais, on me tripotait tout le temps quand j'étais enfant. Voilà. Donc, ça laisse des traces énergétiques, bien sûr.
Mais ça fait sens. C'est vrai que le corps médical est quand même très froid, robotisé, et je pense que quand on a ce souvenir-là engrammé en étant enfant, surtout avec ton corps n'est plus respecté en fait dans son intégrité, et ça, ouais, ça peut être considéré quelque part comme une notion, le mot est peut-être un peu fort, mais un viol en fait, un viol de ton corps, de tes énergies, comment tu le ressentais, toi?
Ah, mais tu sais, là, en tant qu'adulte, mais très tardivement, c'est ça, en fait, qui m'a vraiment permis de mettre le doigt sur le stress post-traumatique et sur ma guérison véritable. C'est de commencer, enfin, en tout cas, le vrai début du chemin de guérison, ça a été de reconnaître que c'était une agression, certes, qui ne m'avait pas été faite. En plus, Amel, ce qui est fort intéressant, c'est que ces gens étaient censés me guérir. Donc, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui je suis thérapeute, mais il y a vraiment ce truc de personnes qui ont ta santé, qui ont ta vie même entre les mains en tant qu'enfant, et qui finalement, donc je suis pas en train de dire attention, hein, je suis pas en train de dire que les médecins ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous dire à quel point c'est curieux de se dire que quelqu'un qui est censé quelque chose, même un acte qui est censé te soigner, finalement t'abîme. Parce que moi, vraiment, ça m'a abîmée. Mais si tu veux, ce qui m'a abîmée, c'est pas... Parce qu'à la fois, ils m'ont sauvée. C'est très duel. Hein. C'est complètement duel parce que... Mais c'est intéressant. Ça fait partie du chemin initiatique, justement, pour dépasser cette dualité, etc. Là, on était en plein dedans. Mais il a fallu, moi, que j'admette que je l'avais vécu comme une agression. Eux ne m'ont pas agressée, si tu veux. Mais moi, je l'ai vraiment, en tant qu'enfant, en plus, tu fais pas du tout la différence, tu vois. Tu te dis pas... Puis on te fait du mal et en même temps, on te dit, mais c'est pour ton bien. T'imagines pour un enfant dans la tête d'un enfant?
Et donc, tu te prends ce retour de boomerang dans la vingtaine. Et là, autour de toi, je pense qu'on capte pas vraiment ce qui se passe. T'es pas accompagnée à ce moment-là?
Si tu veux, j'ai été... J'ai un rapport très fort avec ma mère qui a toujours été là pour moi. C'est un rapport d'âme. J'ai beaucoup de chance parce que, enfin, heureusement, en même temps qu'on a des alliés sur ce chemin. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée vraiment par... ma mère, je la considère vraiment comme une âme sœur qui m'a vraiment... mais tu sais, elle m'a vraiment sauvée, portée. Elle avait vraiment ce rôle de mère universelle, tu vois. Bon, on a tous nos conditionnements, etc. Mais avec un vrai amour inconditionnel. Donc, elle était toujours là, et en même temps, bah, j'ai vécu ma vie, quoi. Et ma vie, ma vingtaine, je l'ai vraiment vécue dans les ténèbres. C'est-à-dire que là, j'étais entourée de... Tu sais, j'étais comédienne dans le milieu du théâtre et chanteuse. Wow. Donc, c'est un milieu assez particulier, qui est génial, mais qui peut être très dark aussi. Ouais. Avec substances, beaucoup d'alcool. Donc moi, j'ai buvais beaucoup, je passais vraiment mon temps à boire en fait et à prendre des substances quoi. À prendre de la drogue, voilà, des choses. Vraiment, tu sais, j'étais dans ce truc d'autodestruction, j'étais plus du tout connectée à ce moment-là à ma foi, plus du tout.
Et quelle vision énergétique maintenant tu as de la prise d'alcool ?
Je vois vraiment l'alcool. Enfin, c'est que je vois. C'est même plus. En fait, tu sais, c'est difficile à expliquer. Je sais que tu sais parce que j'ai vu tes vidéos à ce sujet. Je suis complètement d'accord. Mais en fait, quand tu le vois, moi maintenant, je le vois aussi parce que je l'ai beaucoup expérimenté. Mais l'alcool, ça détruit complètement ton aura. Ça crée des trous en fait, dans ton champ énergétique, et ça permet vraiment à toutes sortes d'entités, etc., de se nourrir, mais pas que, même toi, tu sais, ça te fragilise énormément, mais même un verre, en fait.
Et ouais, complètement, c'est assez incroyable. Quand j'étais en Thaïlande, j'ai fait un bilan de bio-résonance avec une dame à Chiang Mai qui m'expliquait, j'ai beaucoup discuté avec elle, qui m'expliquait que à partir du deuxième verre d'alcool, il reste présent dans tes énergies pendant un mois. Voilà, un mois de brèche, de porosité éthérique. C'est-à-dire que si ton taux vibratoire à un moment donné descend, c'est-à-dire qu'il y a un alignement qui se fait, la porte s'ouvre encore plus et donc tu peux être interféré en fait. Et c'est hyper intéressant parce que avec une autre amie, on se questionne beaucoup sur ça, sur le rapport à l'alcool et comment les gens autour de nous qui boivent réagissent. Et on a remarqué à peu près trois stades. Les personnes qui boivent d'abord sont souvent un peu effacées, éteintes. Quand il y a une ambiance, tu peux pas vraiment avoir une interaction positive avec eux, ils sont un peu fermés, ils sont dans leur bulle. Ensuite, il y a la phase où ah, ça commence à boire et là ça s'ouvre et ça a envie de rire et de s'amuser et là tu as une petite fenêtre de tir de 45 minutes dans lequel ils sont vraiment good vibe. Ensuite, c'est hyper ouf, je te jure, c'est un truc qu'on a vraiment capté.
C'est hyper court en final.
Ouais, ben en fait c'est ça. C'est avec, je te parle avec un alcool assez fort, tu vois. Peut-être qu'avec d'autres alcools ça peut durer, s'étaler plus dans le temps. Mais là vraiment quand la personne a décidé, voilà, de s'éclater. Donc t'as 45 minutes où vraiment tu rigoles et la personne est joviale et good vibe. Ensuite t'as un moment où elle devient un peu méchante, piquante. Et cherche la castagne, cherche des sujets de conversation un peu frontal, voilà, où va te titiller sur certains points. Donc là, ça commence à virer un peu, tu vois, mal. Et ensuite, il y a la dernière phase, qui est la phase interférée, où là, tu vois vraiment que dans le regard,
ça, c'est vrai,
se passe un truc, vraiment.
Là, c'est réel. Ouais. Après, tu sais, enfin, comment dire, je vois bien que... C'est très difficile de parler de ça. Enfin, c'est pas que c'est très difficile de parler de ça, mais en fait, c'est vraiment, il faut le sentir. Je sais pas comment, t'es d'accord?
Ouais.
En fait, quand t'as traversé tout ça, mais ça fait partie d'ailleurs du chemin initiatique. Enfin, en tout cas, ça a fait partie de mon chemin initiatique. Ça a été très difficile. Et je dis pas que j'y arrive tout le temps d'ailleurs. De pas interférer justement sur le parcours des autres. Mmh. Et ça, c'est vraiment difficile, je trouve. Quand tu as des liens avec les personnes, quand tu fais des découvertes, tu sais, moi au début de mon éveil, je suis plus du tout comme ça maintenant, mais j'étais là, mais fais pas ça, mais non, mais attends, oui la vie, tu te rends pas compte,
tout est tellement intense en fait.
Après c'est vrai que je suis un peu intense de fait, maintenant j'essaie de me réguler, mais bon, en fait ça fait partie du chemin de chacun. Tu peux, bah voilà, tu transmets, mais après c'est voilà, mais c'est vrai que l'alcool, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, tu sais, les mages noirs, ça c'est, on peut dire que c'est une légende urbaine, mais en fait, c'est assez réel quand dans plein de cultures, ne boivent jamais d'alcool, ne boivent pas d'alcool. Ils servent de l'alcool, mais ils n'en boivent pas,
wow.
Jamais. Ça veut dire beaucoup. Hein.
À fond, c'est hyper, hyper intéressant et comme info. Et quel conseil, Elisa, tu donnerais à quelqu'un qui vit un peu sous l'influence de l'alcool ou même d'une autre substance, tu vois, qui a développé une addiction dans laquelle elle n'arrive pas vraiment à se sevrer, à sortir de ce piège-là? Quels seraient tes deux, trois conseils pour cette personne?
Bah franchement, déjà, force à toi, parce que le plus dur dans l'addiction, c'est la culpabilité. Tu sais, de se dire je vais pas y arriver, parce qu'en fait toutes les personnes qui te disent c'est une question de volonté, c'est pas vrai. Si on a, en tout cas Je suis pas médecin, donc bien sûr, je ne sais pas, mais en tout cas pour ma part, si tu prends des substances, c'est que tu combles quelque chose, c'est que ton système nerveux est dérégulé. Donc moi, je conseillerais à cette personne d'aller voir par là et de commencer à vraiment essayer de voir ce qu'elle compense à l'intérieur. Voilà, et d'essayer de s'apporter de la douceur et vraiment d'aller voir du côté du système nerveux. Moi, ça, j'ai mis des années avant d'arriver à ça, donc si ça peut faire gagner 4 ans à quelqu'un. Voilà, il y a plein de ressources gratuites maintenant sur Internet, donc voilà. Et vraiment, le nerf vague, tu sais, tout ce truc, en fait, quand t'as été traumatisé, etc., quand t'as vécu des chocs traumatiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, moi, c'est un peu hardcore, mais il y a plein de gens qui vivent des choses 10 fois pire, enfin bon, mais t'as pas besoin, en fait. Oui, ça c'est important, tu sais, il y a plein de gens, je sais pas si ça t'a déjà fait ça Amel, mais il y a plein de gens qui te disent mais non mais moi ça va, j'ai jamais vécu de traumatisme. Mais en fait, les traumatismes, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Tu sais, par exemple, toi t'avais des attentes avec ta mère qui pourtant, bon bah voilà, elle t'a pas maltraité, mais elle t'a ouvert une brèche, créer une faille, et c'est ni de sa faute ni de la tienne, c'est ainsi. Mais c'est important, en fait, parce que si, pour moi, l'éveil des consciences, c'est vraiment lié à ça. Si chacun se prend en charge son chemin de guérison, son système nerveux, avec tout ce que ça implique, donc c'est vraiment le corps et l'esprit, pour moi. C'est ce qu'on appelle holistique, d'ailleurs, c'est ça. Hein. Et c'est vraiment un ensemble. Mais il y a le corps aussi, tu vois. Et si on prend pas en charge ça soi-même, bah, qui va le faire ? Je veux dire, c'est comme c'est, je sais que tu le sais, on part de soi.
Tout ce que tu dis, c'est des rappels qui sont fondamentaux. Enfin, moi, tu me régales tout le temps, en fait, quand je tombe sur tes vidéos et que tu abordes ces sujets-là et que tu fais des rappels. On a besoin d'être rappelé. On connaît les choses, mais quand on nous le rappelle, ça réintègre une fréquence et une vibration. Tu sais, on est traversé par 60 000 pensées par jour. 90% sont négatives et 85% sont les mêmes que la veille. Du coup, on a besoin de tes rappels, on a besoin de ces rappels constamment. Et ça fait du bien, en fait. Et tu sais, j'ai vu que tu as partagé il y a quelques jours sur TikTok un livre justement qui parle de comment les blessures, les traumas s'ancrent sur le corps. Je crois que tu es en train de le lire en ce moment. Ça a l'air d'être une pépite incroyable, même si le bouquin est comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
En fait, en dehors même de ce livre, oui. Alors, ce livre s'appelle « Le corps n'oublie rien » de Bessel van der Kolk. Un livre vraiment que je conseille de lire à tous et à toutes, vraiment. Parce que c'est complètement lié à ce que j'étais en train de te dire, donc merci. En fait, si tu veux, ce qui est très important, et ça, c'est quelque chose... j'ai passé une année 2023 très difficile par rapport... j'étais très éprouvée. Et vraiment, si tu veux, je me suis rendu compte... Alors attends, j'essaie de pas faire de digression, mais en fait, en gros, ce bouquin m'a ramené dans mon corps. C'est ça que je veux dire. Parce que... Mais c'est lié à notre... En même temps, c'est intéressant de parler de ça parce que c'est lié à notre sujet, si je puis dire, parce que le danger d'un éveil de conscience trop rapide ou de, tu sais, de se... Mais je pense que tu seras d'accord avec moi, de se plonger trop dans la spiritualité, sans ancrage. Je sais pas si tu sais ce que c'est le terme, oui bien sûr tu sais, le spiritual bypassing.
Non.
Spiritual bypassing, c'est vraiment le fait d'outrepasser, de court-circuiter en fait le travail de guérison, enfin d'utiliser la spiritualité, mais tu le fais pas consciemment bien sûr, pour un peu masquer, tu sais, un peu comme de la crème...
Mais j'adore ce concept.
Bah, c'est un concept, je sais.
Moi, je vis dans une... voilà, dans ma famille et tout, je suis née dans une famille de confession musulmane, et du coup, t'entends toujours ce « Dieu va tout régler, Dieu va nanana, mais tout va bien, il y a des gens, c'est pire que moi, nanana », tu vois. Et c'est vrai que bah, c'est un énorme problème, parce qu'on va jamais traiter les vrais soucis.
Bah oui, et puis de toute façon, Dieu va nous sauver. Jésus va nous sauver, Dieu va nous sauver, mais là, c'est quand même la plus grosse arnaque de tous les siècles. Je veux dire, le mind control, c'est vraiment genre... mais parce qu'en fait, si tu veux, le mind control, il est possible parce qu'on n'a pas fait le travail de guérison. Ça rejoint exactement ce que j'étais en train de te dire. Parce qu'on a, si on n'a pas besoin d'être sauveur ou victime, ben, du coup, on n'a pas besoin d'être bourreau non plus. En fait, tout est lié. Tout est lié. Et du coup... Si tu veux, le travail, c'est pour ça que je suis hyper relou dans mes vidéos, que je répète beaucoup les choses, parce que moi-même, c'est des trucs, je sais pas la vérité, hein, c'est des trucs, c'est sur mon chemin aussi, et la vie est très, ce chat est très dur, j'allais dire, donc comme tout toute personne en chemin initiatique, les remises, j'allais dire, tu sais, les remises en place sont assez violentes. Genre, si tu dévies, c'est genre...
Ah oui, le retour de bâton, il est radical. Mais en fait, plus tu as conscience des choses, tu sais que moi, parfois, j'ai l'impression que j'abuse. En fait, je me rends compte que plus, tu vois, tu as cette expansion de conscience, plus quand tu n'es pas aligné ou que tu oublies de dire un truc ou que tu as dit quelque chose qui potentiellement peut être mal interprété et du coup peut blesser, ben moi, j'arrête pas d'y penser, en fait. Et du coup, je me dis non, mais je ne vais pas culpabiliser, je vais appeler la personne si elle a mal compris... On rectifie les choses, mais tu as raison sur le fait que voilà, ce parcours d'éveil fait que tu dois être intransigeant et intransigeante sur beaucoup de choses.
Et tu viens de dire un truc, pour le coup, c'est moi qui rebondis sur ce que tu dis, mais parce que tu viens de dire un truc super important, à mes yeux en tout cas, et je pense que justement, par rapport au spiritual bypassing, prenons un exemple de spiritual bypassing. Tu vas te dire, oui, mais comme tout est juste, bah du coup, je laisse faire les choses. Comme tout est juste, c'est un exemple, hein. C'est pas pour me moquer que je dis ça, c'est vraiment pour donner un exemple. Je le dis pour... pas pour agresser les gens. Non, mais voilà, c'est important. C'est que par exemple, tu sais, tu vas dire, ouais, bah, elle m'a mal parlé. Et ben, du coup, je vais pas. Et ben, du coup, c'est moi qui ai raison. Je sais pas comment t'expliquer. Là, pour reprendre l'exemple que tu disais, ça s'est mal passé au téléphone. Là, par exemple, de dire, bah non, pour moi, un éveil de conscience, c'est exactement ça, la bonne posture. C'est de dire, bah non, on va arranger les choses ensemble. Si tu veux, il y a quelque chose d'ensemble. Et d'ailleurs, les dérives, ce qu'on appelle les dérives sectaires, c'est les gens qui essaient de t'isoler, de te couper du monde, tu vois. Alors que non, le but pour moi d'un éveil de conscience, c'est qu'on soit ensemble, c'est de s'ouvrir au monde, pas de s'y enfermer.
En expansion, donc du coup, on s'ouvre. Ouais, c'est hyper important, c'est un rappel important, ça aussi. Ce mouvement vers l'extérieur, vers l'autre, vers la cohésion, vers la... Ouais, très important.
C'est important pour toi. Et je trouve que c'est important de le dire parce que, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais il peut y avoir justement, sans s'en rendre compte, parce que t'as une réponse traumatique. Alors, c'est pas forcément, je dis beaucoup traumatique parce que je suis j'étudie beaucoup ça en ce moment, mais disons une réponse, tu vois, égotique, on pourrait dire aussi.
En réaction,
voilà, c'est ça. Et la réaction, ça peut être de s'isoler aussi. Donc, bien sûr qu'il y a des moments, c'est Peter Levine qui dit ça, qui dit expansion, contraction, expansion. Voilà, bon, ça, il n'y a que lui qui dit ça, mais tu es d'accord, tu peux bien sûr t'isoler. Et il y a des moments où la vie t'isole. Tu avais fait une très belle vidéo là-dessus. Mais aussi, il ne faut pas oublier de revenir, selon moi. C'est une question d'équilibre toujours, en fait.
Absolument. Et pour en revenir au sujet de la conscience dans le corps, c'est quelque chose que j'ai... Mais t'inquiète, on se comprend. Je fonctionne comme toi, mon cerveau a à peu près la même mécanique alchimique que toi, t'inquiète pas. Tu sais, la conscience dans le corps, c'est quelque chose que j'ai capté en méditant, en faisant Vipassana, tu vois, avec les moines en Thaïlande. En fait, j'ai capté que... ramener la conscience dans son corps, parce que notre conscience, elle est complètement éclatée, en fait. Il y en a un gros bout dans le passé, il y en a un bout dans le futur, dans un futur positif, un futur apocalyptique. Il y en a avec les gens, avec les tâches à faire, éclaté. Et quand tu médites, en fait, tu ramènes cette conscience, boum, dans le corps, dans l'ici et maintenant, au point zéro, en fait. Et en étant connecté là, je ressentais vraiment cette capacité à revitaliser toutes tes cellules, à te reconnecter à tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, et même tout le fluide énergétique est ravivé. Est-ce que la pratique, par exemple, de la méditation, peut-être la respiration ou d'autres choses, c'est des choses qui font partie, toi, Elisa, de ton hygiène spirituelle et énergétique ?
C'est très important ce que tu dis, parce que c'est complètement lié à tout ce que nous a transmis le Christ, l'Esprit qui descend, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, donc on nous a fait croire que c'était quelque chose d'autre que nous, hein. De toute façon, on nous a fait croire que Dieu, c'était quelque chose d'autre que nous, et c'est pas pour rien qu'on est toujours dissociés et que dans les spiritualités, alors sans rentrer dans le complotisme, genre, on n'a pas besoin, mais la société fait que, tu comprends ce que je veux dire? Évidemment pas pour notre bien, mais dans le sens où c'est vraiment t'as remarqué, hein, un grand projet de sabotage et aussi ce truc de couper le mental toujours. Or, pour moi, dans les recherches que je fais, et vraiment de plus en plus, dans les découvertes que je fais, hein, en dehors des recherches extérieures, tu comprends quand je dis, voilà, c'est tout l'inverse. C'est que c'est l'esprit qui doit rejoindre le corps. Donc, évidemment, que toutes ces pratiques, comme la respiration, de toute façon, c'est ce que je disais dans cette vidéo, pour revenir dans le corps, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a le mouvement, mais le mouvement, c'est très vaste, hein, mais tu as le mouvement, la respiration et le chant. Après, la méditation, c'est génial. Quand ton système nerveux, il est régulé, tu peux faire de la méditation, il n'y a pas de souci. Si ton système nerveux, il est dérégulé et que toi, tu ne te sens pas encore complètement en sécurité dans ton corps, et ça, c'est pas conscient, tu vois. Moi, ce que j'invite les gens à faire, parce que moi, j'ai hyper galéré. Moi, j'ai beaucoup d'admiration quand je vois que tu passes des jours entiers à méditer. Je suis là, wow, je ne suis pas du tout là, moi, par exemple. Mais j'y arrive petit à petit. Maintenant, j'y arrive mieux. Mais tu vois, je pars dans tous les sens, j'ai beaucoup de mal. Ce que j'ai trouvé, moi, bah c'est de la méditation active. Ce que j'ai trouvé que j'adore et que dont je ne me passe plus, ça fait vraiment partie de mon hygiène quotidienne. Puis moi, j'ai vraiment des rituels le matin et le soir. Voilà. Et le matin, du coup, ce qui m'aide vraiment à me centrer, c'est le Qigong. C'est une sorte de méditation active.
Tu fais ça dans la nature ?
Alors, franchement, tu sais, j'habite à Paris, malheureusement. Donc, mais par contre, le matin, du coup, je le fais chez moi. Tu vois, si je vais dehors, je suis vraiment dans la rue à Paris, donc non.
Mais il m'arrive. Place de la République.
Ah, c'est ça. Non, mais par contre, il m'arrive très souvent de le faire, effectivement, en forêt. Et c'est effectivement pas du tout la même chose. Parce que tu ramènes le Qi. Donc vraiment, le Qigong, c'est vraiment c'est vraiment toucher l'énergie. C'est entre la méditation et vraiment, tu sais, tu remets tes énergies. En fait, c'est comme si tu te faisais un auto-soin tous les jours. Vraiment, moi, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est génial. Hein. Et quand tu es en nature, le Qi, bah, tu as beaucoup plus accès. Mais même si tu le fais dans un petit appart, dans les pires conditions, le Qi, il est partout. C'est ça qui est génial.
Et Elisa, tout à l'heure, tu nous as parlé du système nerveux. Ma sœur, Ilem, chez qui je suis en ce moment, termine ses études de naturopathe et elle a tout un corpus justement autour du stress, de l'anxiété, du système nerveux. Donc, elle m'en parle régulièrement et je suis fascinée. Enfin, je suis en train de comprendre comme toi, je pense que c'est vraiment une des clés de vitalité et même d'épanouissement personnel et même spirituel parce qu'on arrive vraiment à se connecter au cœur quand le mental est pacifié, et le mental est pacifié quand le système nerveux
et oui,
est régulé.
Et oui, mais oui, ouais. Tout est lié.
Et le système nerveux, il est au cœur, tu vois, de toutes les médecines ayurvédiques, chinoises, tu vois. En Asie, on va te parler que de ça, tu vois. Et ici, on a l'impression que on n'en a rien à carrer.
On est déconnecté du corps. Et regarde là, comment est la médecine. Là, pour le coup, de mon expérience... moi, on m'a collé des antibiotiques pendant 12 ans. Voilà, c'était la seule solution. Et pareil, plus tard, j'ai développé une endométriose, évidemment. Enfin, j'ai envie de te dire, tu sais, les choses, elles disparaissent pas par hasard. Tant que la racine n'a pas été soignée, c'est là.
Et c'est hyper intéressant que tu dises la racine, parce qu'on est au niveau du chakra racine.
Exactement, mais exactement. Et tu sais, dans tout ce qui est, j'ai vu que toi, tu étais, que tu t'intéressais au travail de Bernard de Montréal.
Oui.
Bon, c'est un autre sujet, mais en tout cas, on va pas se perdre là-dedans. Mais quand même, pourquoi je te dis ça? Parce que Bernard de Montréal, il explique, alors c'est très technique lui, supramental, c'est passionnant le supramental aussi. Ce qui est intéressant, c'est que le supramental, ils ont capté en fait que justement le corps, c'était, il y avait vraiment des réseaux électriques et que le cœur rayonne à un rayonnement mais hallucinant, mais électrique. Donc c'est électrique en fait, on est des canaux électriques. Donc si ton système nerveux il est dérégulé, qu'est-ce que tu captes? Bah de la merde. Tu peux pas capter des vibrations. Oh, alors, j'aime pas dire pur, mais c'est pas pur que je veux dire, ça fait très eugéniste de dire ça. Mais disons, exactement clair. Mais l'angoisse, c'est ça. L'angoisse, t'es toujours parasité. Et en fait, moi, j'étais devenue un peu parano. C'est pour ça que je parle de les dangers, entre guillemets. Enfin, non, pas entre guillemets, les dangers de trop de spiritualité. C'est pas du tout entre guillemets, c'est vraiment, il y a un vrai danger. Parce qu'en fait, si t'es pas régulé, tu vas être complètement à partir dans l'astral, dans des sphères qui sont pas du tout ici. Tu vas encore plus sortir de ton corps et encore moins accueillir la conscience. Donc, c'est dangereux, en fait. C'est important, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Ça, c'est une révélation vraiment que j'ai eue 2023, parce que je suis passée par là, justement. Moi, je suis montée, et en fait, j'étais, tu sais, comme une antenne, c'est comme une radio, quoi, qui fait cric, cric, cric.
En fait, développer ses capacités supramentales et élever, tu vois, toutes tes ramifications là-haut, en étant à Paris ou en région parisienne, où la fréquence vibratoire, du coup, t'as créé un grand décalage. Mais ouais, tu l'as dit, mais c'est ça. Moi, il y a un moment donné, j'ai dû m'extraire, en fait, un peu comme une plante dans un pot de fleurs. Ça y est, mes capacités étaient limitées dans le pot. Il a fallu que, boum, je pète le pot et que j'aille encore dans un autre pot un peu plus grand, tu vois. Et je pense qu'il y a de ça aussi. Je pense que le décalage fait que, pour toi, c'est pas génial aussi.
Non, c'est vrai. Et là, tu sais, t'es vraiment pas la première à me le dire. Je pense vraiment qu'il faut que je me penche sérieusement sur le sujet. J'ai de la chance d'avoir une forêt à côté de chez moi. Mais si j'y vais pas tous les jours, Amel, effectivement, c'est compliqué. Mais là, je pense que même mon arbre adoré, il peut plus rien pour moi, là. Enfin, effectivement, il y a un moment où il faut, tu sais, voler, quoi, de ses propres ailes.
Exactement, oui. Et tu parlais du champ électromagnétique du cœur. Les datas sont celles-ci, c'est que le champ électromagnétique du cœur, il est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. 5000 fois plus puissant. Mais vu que l'accès à la data du cœur, ça passe par l'intuition et quelque chose qui ne passe pas par le cognitif, en fait, qui ne passe pas par la raison, on n'est pas du tout entraîné à ça. Du coup, on passe à côté des infos, tu vois. Sauf qu'elles sont bien là, en réalité. C'est fou.
Mais oui, c'est fou. Et ça rejoint exactement ce que je te disais sur le chemin de guérison et le chemin d'éveil. Pour moi, c'est très lié parce que, si tu veux, le cœur, il est, comment dire, l'amour, on va dire, il est conditionné. Là, c'est le côté psycho, mais en fait, c'est lié, tu vas voir. L'amour, il est conditionné tant qu'il y a, tu sais, comment des voiles sur l'inconscient, en fait. Par exemple, tu peux très bien te dire, mais si, mais moi, je l'aime, cette personne. Je sais que je l'aime parce que je demande rien en retour. Puis, mais en fait, tu peux complètement faire ça dans un rôle complètement de sacrifice, en fait. C'est très subtil. En fait, à la fois, j'allais dire, il n'y a pas de règle universelle. À la fois, il y a des lois universelles, bien sûr, mais on est des individus. Et ce travail, c'est ce que disait Carl Jung, ce travail d'éveil, c'est un travail d'individuation. Il n'y a que toi, il n'y a que l'individu qui peut revenir à cette data du cœur. Mais pour ça, il faut qu'il ait, tu sais, il faut qu'il ait enlevé les voiles de l'inconscient, quoi. Et l'inconscient, bah voilà. Avant d'être collectif, il est individuel.
Parce que pour beaucoup, ils vont dire non, mais le parcours initiatique à spiritualité, c'est pour les égoïstes, les égocentrés, tu vois. Tu penses qu'à toi, c'est normal, t'as du temps, tu penses qu'à toi. Mais moi, à ton époque, je me posais pas toutes ces questions, j'étais tellement occupée, tu vois.
Ah, t'as entendu ça, toi ? C'est vrai que c'est dur. Hein. En fait, soi, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que qui est soi ? Quel est ce soi ? C'est pas le personnage égotique. C'est pas Elisa ou Amel. On parle pas de ça. On parle du soi. On parle pas de soi. On parle du soi. Le soi qui est un, qui n'est qu'un, qui est interconnecté. Donc c'est tout sauf égoïste, parce que je peux te dire que les chemins initiatiques comme ça, c'est pas du tout un parti de plaisir. Hein. Il y en a plein qui font demi-tour, hein, d'ailleurs, et je les comprends, d'ailleurs.
Ouais, mais c'est hyper beau, le soi avec le S majuscule, qui est finalement le soi qui nous connecte tous les uns avec les autres. Je me rappelle quand j'avais fait mon parcours chamanique au Pérou avec l'ayahuasca, j'avais vraiment vu, tu sais, le fil, un fil comme ça, avec des perles, et que ce fil, c'était en fait l'âme du monde, ce fameux soi qui passait au travers de toutes les perles.
C'est hyper beau. J'ai vu, du coup, je l'ai vu ce week-end.
Le documentaire.
C'était passionnant, bah, j'ai vu sur ta chaîne YouTube. Oui.
Tu sais, cette plante-là, en fait, elle rentre en communication avec toi, avec tout ce que tu kiffes, en fait. Moi, c'était des métaphores, des images, des punchlines, de l'humour. Elle s'adapte vraiment à comment tu aimes qu'on communique avec toi, et toi, comment tu communiques avec le monde, tu vois. Et elle te parle de cette façon-là, donc c'est toujours hyper impactant, beau, tu vois, poétique, incroyable. Ah oui, je voulais te poser cette question, Elisa. Quelles sont les personnes qui t'ont accompagnée, qui t'accompagnent encore, des auteurs, des thérapeutes, des poètes, des artistes qui t'ont inspirée dans ce parcours d'éveil et qui t'inspirent encore aujourd'hui?
Alors franchement, les personnes, c'est un peu, tu sais, moi je suis un peu comment monomaniaque. Hein. Vraiment, la personne qui m'a vraiment, comment dire, ouvert les yeux, c'est Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, je ne sais pas comment on le prononce, mais voilà. Et vraiment, si tu veux, c'est, j'aime beaucoup cet homme. Je trouve d'une grande humilité à la fois. Il est, lui, il a vraiment une, il a vraiment vécu une illumination. Lui, vraiment, je sais pas facile, on se rend pas compte, mais il a vraiment vécu quelque chose de très violent parce que ça a été du jour au lendemain. Quasiment, il s'est réveillé et il a fait, il s'est connecté à la conscience, mais genre, il a eu ce qu'on appelle un éveil spontané. C'est assez rare, hein, ce qu'il a vécu. Mais du coup, il l'a pas vécu pour rien, il l'a vécu, bah du coup il le transmet, c'est la conscience qui parle à travers lui, tu le sens, tu l'entends, c'est inexplicable, mais ça se sent, c'est une connexion qui, lui du coup, pour reprendre ta métaphore, c'est comme si, tu sais, il pouvait directement se connecter à ta conscience quand tu l'écoutes ou quand tu le lis, je trouve.
Vraiment, j'avoue. C'est vrai. Ouais, hein. En fait, ce qu'on ressent chez lui et chez d'autres maîtres, je pense à Peter Donov ou Omran Mikhaïla Ivanov, ou tu vois, en fait, ils sont sur une fréquence de vérité, en fait. C'est très étrange. C'est pas la vérité qu'on utilise, nous, dit la vérité. Non, non, non. Eux, ils sont sur... on dit que ces vertus-là sont des anges. Eux, ils sont accompagnés de ces anges-là, de ces vertus-là. On les a tous aussi en nous, ces mémoires-là, on les a. Et du coup, quand ils utilisent ces fréquences-là, ces bandes, ces ondes-là, bah, on reçoit 100% du message et ça nous anime aussi, ça nous donne vie, tu vois.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est assez étonnant, ça ne s'explique pas en fait. Hein.
Ça se ressent.
C'est ça. Et un autre auteur que j'adore et que j'aime d'amour, c'est Rumi. Parce que le soufisme, moi je suis d'origine algérienne et c'est ce que j'ai gardé, on va dire, de ma culture. C'est vraiment le soufisme. Je trouve ça magnifique, quoi. C'est pas, tu vois, j'ai pas du tout connu cette partie-là de ma famille, très peu connu en tout cas. Je connais pas du tout, mais c'est vraiment ce qui me relie. C'est pour ça que ça me tient à cœur. C'est vraiment ce qui me relie à ma culture, à cette partie de moi, on va dire.
Ouais, à cette partie de ta mémoire personnelle, ouais.
Voilà. D'Elisa en tout cas.
Spiritualista.
Elisa, comment ça se passe pour toi quand tu as besoin de devenir ta propre pom-pom girl, quand tu sens que tu n'as pas les ressources et là, il va falloir quand même se garder le cap, en fait. Comment tu t'y prends?
Franchement, tu veux que je te dise la vérité? Je fais plus ça. Pour être ma propre pom-pom girl, bah, la meilleure chose que je puisse faire, par exemple, c'est de me reposer quand j'ai besoin de me reposer. C'est d'être à l'écoute de mon corps. Voilà, justement, d'en parler. Donc, si mon corps, il est... Et ça, c'est difficile, je dis ça, comme c'était facile. C'est pas facile, parce que quand t'as été dissocié toute une partie de ta vie et que t'as beaucoup pris de substances, donc tu sais, t'as vraiment... En fait, c'est comme si j'avais passé méticuleusement 20 ans à ne surtout pas m'écouter. Tu sais ?
Wow.
C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et en fait, aujourd'hui, je fais le chemin inverse. Donc, ma propre pom-pom girl, avant, je t'aurais dit, bah, c'est me dire, allez, deviens la meilleure version de toi-même. Et en fait, c'est pas mal hein, de faire ça. Il y a rien de bien ou mal. Mais par rapport à mon histoire, moi, c'est pas ça qu'il me faut. C'est de dire, là, tu peux pas. Tu vois, par exemple, là, j'étais, mais je sais pas, octobre, novembre, décembre, j'étais épuisée, mais tu sais, épuisée, Amel. Où vraiment, je ne pouvais rien faire. Et là, j'ai fait, mais. Bah tant pis, je pouvais même plus faire de vidéos. Alors, j'avais plus de créativité, j'avais plus d'inspiration. C'était vidé, quoi. Mmh. Ça a été une très belle leçon de lâcher prise. Donc, évidemment, j'ai quand même fait des choses dans le sens où j'ai continué de vivre. Mais, tu vois, l'apprentissage à ce moment-là, ça a été d'être, ok, là, pour être ta pom-pom girl, pour reprendre tes termes, pour être avec toi, c'est justement d'être dans ce calme. Et d'être, au final... complètement raccord avec la saison, en plus, de fait. Mais ce n'est pas facile, parce qu'on est, en plus, comme tu dis, Paris, etc., mais on n'est pas du tout dans une société qui nous encourage à nous écouter.
Ouais.
Et encore moins à ne pas être productif.
Mm.
C'est ça aussi. Hein.
Et là, Elisa, tu parles de cette auto-exploration au travers des émotions, d'aller ressentir, d'aller comprendre ce qui joue en toi. Comment t'as appris à faire ça?
Franchement, c'est le. D'ailleurs, tu vois pas ici, mais j'ai vraiment un truc énorme avec écrit emotions, parce que c'est pour te dire, c'est vraiment le challenge de ma vie, quoi, de cette vie-là en tout cas. Les émotions, c'est vraiment quelque chose de difficile parce qu'en fait, j'ai vraiment, comme je te dis, méticuleusement appris à ne pas les ressentir. Alors là, pour le coup, toute ma vie. Donc là, j'ai 40 ans. J'ai eu 40 ans là. Et à 40 ans, j'apprends à ressentir mes émotions. Alors peut-être, allez, à 38, 39 ans, mais tu comprends l'idée, quoi. C'est vraiment quelque chose... En fait, ça revient... C'est pas genre j'apprends à écouter mes émotions. C'est qu'en apprenant à être dans le rythme de mon corps... dans la régulation de mon système nerveux, etc., les émotions, en fait, si tu veux, elles émergent et c'est d'essayer de plus les refouler et de les... Tu sais, les Anglais, ils disent « feel your emotion, feel it ». Voilà. Mais c'est exactement ça. Et alors, c'est vrai qu'au début, tu te dis « mais ça veut dire quoi, feel it ?» Ben, ça veut juste dire se laisser traverser, ne pas résister. Mais c'est horrible, en fait, quand t'as pas appris à le faire, au début, en tout cas. Après, bien sûr, c'est un entraînement. Après, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, c'est presque pas un exercice, mais c'est très froidement. Je pense qu'il y a même des gens qui se disent que je suis un peu une psychopathe, parce que des fois, je peux vraiment pleurer, tu sais, comme ça, et c'est bon, c'est passé, en fait.
Oui, la charge énergétique t'a traversé. C'est cette notion, en fait, qui est importante aussi à capter avec les émotions. C'est le emotion, le i d'énergie, motion en mouvement, et du coup, il faut qu'elle te traverse. Parce que là, si elle reste à l'intérieur, elle se fige, elle se cristallise, elle te densifie, tu vois. Et ça fait effet boule de neige, en fait. Ça grossit en toi. Donc, la laisser te traverser, c'est la vivre, en fait.
Exactement. Et le problème, c'est que tu t'identifies à elle. Tu dis, je suis triste, je suis joyeux. Mais non, tu es le point zéro, pour reprendre ce que tu disais.
Je suis traversée par de la tristesse.
Voilà.
Aujourd'hui, je danse avec ma colère.
Voilà. Non, mais en fait, tu sais, le truc, parfois, les peines, ce qu'on appelle les peines, mais ça, je suis en train de l'apprendre. C'est un long chemin, long. Peut-être que ce sera... Franchement, moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit moins... Je pense vraiment que ce sera moins long pour les générations d'après. Mais je pense que nous, on a un peu le dans la génération ingrate, tu sais, ceux des années 80 et tout, d'avoir, tu sais, un peu le truc de genre, ah, ok. Parce que commencer à faire ça à 30 ans, 40 ans, c'est déjà... Si tu apprends à faire ça, si par exemple, nous, on avait des enfants et qu'on leur apprenait à faire ça comme un truc, comme de l'hygiène, en fait.
Absolument, oui.
Ben, en fait, t'as pas la même vie.
T'as carrément pas la même life.
Mais non, parce qu'en fait, on s'identifie. Et en fait, on s'identifie à ces émotions. Mais on s'en rend même pas compte. On ne s'en rend même pas compte. Donc maintenant, ce que je fais, c'est vraiment ça. C'est, oh là là, mais ça, c'est du passé. Elle a rien à voir, pour reprendre et cartoler. L'émotion n'a rien à voir avec l'instant présent. Et je sais que j'avais fait une vidéo là-dessus, justement avec emotion, etc. J'avais beaucoup de commentaires qui me disaient, oui, mais du coup, et à juste titre, hein, que je comprends, qui me disaient, oui, mais les enfants, ça veut dire que, ben non, les enfants, ils n'ont pas de souvenirs. Ben déjà, faux. Déjà, c'est faux. Parce qu'ils ont tous les souvenirs, le système nerveux, ça fait longtemps hein, qu'ils ont un système nerveux. Hein. Même quand ils naissent, hein, ça fait 9 mois qu'ils en ont un. Donc, ils en ont plein d'émotions refoulées, déjà quand ils naissent.
Parce qu'ils ressentent déjà toutes celles de la mère.
Mais oui, de la mère et de l'environnement, du père, etc. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'instant présent. Ça a été cristallisé, c'est exactement ce que tu disais, c'est une énergie. Et en ça, le Qigong peut être très intéressant, justement, parce que ça fait vraiment circuler l'énergie. Mais en ça, c'est là où tu te rends compte assez froidement quand tu fais cet exercice, quand tu t'exerces à ça, en tout cas, régulièrement. Tu te rends compte vraiment, littéralement, que tu n'es pas tes émotions. C'est pas, si tu veux, c'est pas, tu sais, ça fait très truc de développement personnel. C'est pour ça que moi, dans mes vidéos, je dis toujours, mais expérimentez-le, en fait.
Mais tu sais, le pouvoir de l'expérimentation directe, pour moi, c'est extraordinaire. Parce que c'est des trésors qui sont pour nous, qui sont personnels, c'est du sur-mesure. Et en fait, tu sais, c'est ces moments où tu te connectes vraiment au savoir, c'est-à-dire cette connaissance qui ne s'apprend pas, tu vois, qui n'est pas livresque. Et ça te prend et ça y est, tu sais, en fait.
Tellement intéressant ce que tu dis. Ça, c'est vrai. Et ça, ça c'est vrai que c'est, et ça, c'est réel. Et c'est en chacun d'entre nous. Il n'y a pas besoin de rajouter, il y a besoin d'enlever.
Tu sais, c'est fou, mais des moments, je me dis que quitter un petit peu tout ce qui est les écrans et tout ça, et revenir un peu à la nature, je pense que déjà, ce serait un grand pas pour l'humanité, en fait, et la reconnexion à soi et à l'autre, tu sais.
Tout à fait.
Parce que quand il y a des tâches à faire dans la nature, avec des animaux, des choses, la cohésion, elle doit se faire. L'échange, il doit se faire. Tout à fait.
Mais tu sais ça, pour le coup, ouais. C'est Guilhem Keiza qui en parle très, très bien. Quoi. Il en parle comme personne, je trouve.
J'adore. Tu sais que je l'ai interviewé juste avant toi.
Ah, mais c'est pas vrai. Ah bah, je vais absolument aller le voir parce que j'aime beaucoup. J'aurais pu parler de lui dans mes inspirations. Mais c'est exactement ça. C'est exactement... Bah voilà. Mais c'est vrai. Et il a raison. Et tu sais, il raconte, pourquoi je te parle de lui? Parce qu'il raconte une anecdote qui valide exactement ce que tu dis. C'est que, il dit, bah, à tel moment, en fait, la vie concourt à ce que tout se fasse dans une synchronicité parfaite. Et si, d'un coup, en fait, bah, je sais pas, on a des écrans où on doit aller à l'école, où on doit travailler, etc., ça nous enlève l'opportunité de rencontrer tel renard qui va nous apporter telle vibration, qui va nous empêcher de nous connecter, etc., etc. Et boum, tu passes à côté de ton destin.
Non, mais carrément, mais c'est hyper juste, tu sais. C'est hyper, hyper juste. Et on parlait justement des écrans avec lui et du pouvoir hypnotique de ses applis et tout ça. Enfin, c'est quand même incroyable. Il y a des moments où je veux juste prendre mon téléphone pour regarder une note et je me retrouve à perdre 30 minutes sur TikTok et Instagram. Tu sais,
c'est rien. Ah non, c'est vraiment flippant. Moi, tu sais, je me suis rendu compte que si je faisais pas gaffe, vraiment, je perdais ma journée. Je pouvais perdre une journée, une soirée.
Le temps passe comme ça. Je suis en région parisienne et je devais attendre un RER qui m'était passé sous le nez pendant 30 minutes. T'imagines bien comment c'est long. Je me suis dit, ah, je vais aller sur TikTok, ça va passer comme ça. Et ben, en effet, j'ai attendu si peu. En fait, en temps ressenti, ça s'est transformé en 6 minutes. Alors que c'était vraiment 30 minutes.
Ouais. Et on est tous, pour le coup, c'est vrai qu'on est tous dedans. C'est comme si, tu sais, il y avait une grande... J'ai un ami qui a dit les réseaux sociaux, c'est vraiment la plus grande magie noire, en fait, qui existe. D'ailleurs, c'est un artiste super. Mais bref, c'est parce que les artistes, je trouve qu'ils ont vraiment un grand rôle à jouer dans l'éveil des consciences, sans parler forcément de spiritualité, tu vois. Ils ouvrent complètement une autre... ils sont connectés, en fait, directement à la source. Hein.
Je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, là, c'est la 4e saison de Spiritualista, et la saison 3, elle était intégralement dédiée... j'ai invité que des artistes, des comédiens, des auteurs, des scénaristes, parce que la création, l'acte de faire de l'art, pour moi, c'est vraiment la fréquence vibratoire, la plus ajustée au divin, en fait. Le divin est créateur. Et du coup, quand tu es un artiste et que tu crées aussi, tu vois, tu es aligné, quoi. C'est intéressant parce que tout à l'heure, tu nous parlais dans ton parcours du fait d'être comédienne et d'être artiste et aussi du fait de ressentir ses émotions. Est-ce que parfois, ces deux calques fusionnent en toi et tu te rends compte que quand on se laisse traverser par des émotions... Quelque part, il y a un côté un peu drama queen qui joue aussi en nous. Est-ce qu'on joue nos émotions? Est-ce que parfois, elles sont 100% authentiques? Ou est-ce que parfois, tu vois, on rentre dans un jeu un peu de comédie?
Alors, c'est une très bonne question, mais ça revient exactement à ce qu'on... Enfin, c'est la suite de ce qu'on disait plus tôt. En fait, si tu veux, l'émotion, elle n'est pas... Oui, tu disais authentique. Est-ce qu'elles sont authentiques ou est-ce qu'on l'a overreacted, quoi? En fait, l'émotion n'est pas authentique puisqu'elle ne nous appartient pas. Donc, elle ne peut pas être authentique dans le sens où... Alors, je ne veux pas que les gens déréalisent encore plus en m'écoutant, mais ce que je veux dire, c'est que le problème, on en revient toujours à la même chose, c'est de s'identifier. C'est l'ego qui s'identifie de toute façon. Si tu t'identifies à l'émotion, bah... Forcément, ça va être surjoué parce que ça n'est pas toi. Mais en fait, on est tellement... Ça, c'est loin. C'est loin dans la compréhension, entre guillemets. Ça reste que de la compréhension. Parce que tu vois, ça n'empêche pas... Là, on parle, c'est des choses que j'ai compris, mais ça n'empêche pas que si je vis un moment terrible dans ma vie, tu vois, que ce soit un deuil ou quoi que ce soit, je vais quand même être traversée et je vais quand même m'attacher. J'ai beau le savoir, si tu veux. J'ai pu savoir, par exemple, que la mort n'existe pas, bah, ça m'empêche pas d'avoir de la peine, etc. C'est juste que c'est différent. C'est différent. Parce que tu en as conscience profondément. Hein. C'est pas intellectuel, c'est que tu le sais, comme tu disais tout à l'heure. Mais tu peux te faire piéger quand même. C'est comme les réseaux. Tu le sais, mais tu peux te faire piéger. Donc, quelque part, Amel, pour répondre à ta question, oui, on est tous des comédiens. Parce qu'on n'est pas ces êtres-là, véritablement. On n'est pas Amel, on n'est pas Elisa, on n'est pas que, en tout cas. On est aussi Elisa et Amel. Attention, c'est pas ce que je dis, mais ça peut faire un peu péter un plomb quand on se rend compte de ça.
Bah, c'est hyper méta, en fait, tu vois. Mais tu sais, hein, tout ce que tu as décrit, en expérience directe, en méditant, j'ai vraiment capté les différentes ondes cérébrales par lesquelles tu entres quand tu rentres en état méditatif. Et du coup, mais même les moines bouddhistes, tous les matins, on avait des teachings, des cours à 5h30 du matin. Ils te l'expliquaient très clairement. Ils t'expliquent les différentes strates. Et du coup, je les ai vraiment ressentis. Et tu ressens exactement ce que tu as dit. Au départ, tu rentres en méditation, tu reviens, tu ramènes la conscience vers ton corps, la respiration se restabilise, tu vois. Ok, tout devient plus pacifique. Et là, tu commences à rentrer dans la dimension où il y a les pensées, les émotions et des intrusions. Ouais, tu commences à les capter. T'attends, tes fréquences hertziennes, tes ondes cérébrales, c'est cognitif et neurologique, hein, c'est de la science pure. Tu descends, donc ça devient des interférences de moins en moins perceptibles, tu vois, et boum, à un moment donné, tu passes encore sur une autre strate qui est beaucoup plus ouverte, dans lequel tu reçois une dose d'informations, mais les informations, elles sont beaucoup plus claires, en fait. Il y a moins de distorsion, tu vois. Et surtout, t'es plus dans le mental et t'es plus dans l'émotionnel. Et tu continues, et plus tu stabilises cette fréquence-là, un minimum, eux, ils disent 20 minutes, ce qui est assez long, parce que déjà, pour arriver à ce sas-là, t'as 15 minutes, tu rajoutes 20 minutes. Et à un moment donné, si tu arrives vraiment à rester à l'intérieur de toi, être stabilisé, tu arrives sur une autre dimension encore beaucoup plus claire dans laquelle tu vas pouvoir vivre une expérience un peu extatique, tu vois, où tu vas être carrément, tu vas fusionner avec le tout, tu vois. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut vivre et ressentir. C'est très dur d'en parler. Pour les bouddhistes, c'est l'état de samadhi, tu vois. On n'y arrive pas à tous les coups. Moi, en 10 jours, j'y suis arrivée une fois et demie. Donc, en méditant tous les jours pendant les 10 jours. Donc, c'est encore, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de le vivre. Mais voilà, donc, c'est exactement ça. C'est les différentes strates, en fait. Et donc, ces strates-là de nos pensées ne nous appartiennent pas. Nos émotions sont que des masques qu'on met pour jouer dans la pièce de théâtre. C'est réel.
Et ouais, et il y a vraiment des événements, justement, qui peuvent te provoquer ce qui explique Eckhart Tolle, d'éveil spontané. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne l'as pas demandé. Et vraiment, en fait, d'un coup, moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a 4 ans maintenant, où vraiment, en fait, si tu veux, j'ai eu ce... Alors après, je ne l'ai pas gardé tout le temps. Attention, hein. C'est pas comme Eckhart Tolle, parce que lui, il l'a vraiment gardé tout le temps. Mais par contre, j'ai senti ce truc-là. D'ailleurs, je crois que j'avais pris des substances à ce moment-là. Mais en fait, c'était un moment, si tu veux, très particulier de ma vie où c'est là où il n'y a pas eu de retour en arrière après. Mais il y a eu vraiment un moment où en fait, j'ai senti vraiment ce truc-là pendant que j'étais en train de faire un trip. Et là, j'étais vraiment genre, je me sens connectée, je m'en rappelle, je me sens connectée. Et en fait, le lendemain, je me suis réveillée. J'allais dire, j'étais plus la même personne. On se comprend. J'étais la même personne, mais en fait, ça avait basculé. Et c'est là où, en fait, tout a commencé, en accéléré, etc. C'était le moment, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tu peux aller chercher la conscience, mais la conscience peut aussi venir te chercher.
Absolument. Oui.
C'est vrai.
Je dis toujours, quand la main de Dieu se pose sur ton coronal, tu vois, la connexion se fait.
Exactement.
Mais tu sais, j'adore cette peinture de la chapelle Sixtine, tu sais, avec les deux doigts comme ça. Et tu vois que le doigt de l'homme est juste en dessous du doigt de Dieu comme ça. Et il est comme ça, il a la phalange un peu courbée. Et tu vois qu'il a juste à faire clac pour se connecter. Ouais. En fait. Et ce clac, c'est juste augmenter sa fréquence vibratoire, tu vois, monter d'un cran. Et surtout, ça passe par le corps, en fait, tu vois. On revient dans cette notion d'incarner les choses.
Ouais. Totalement. Ah, je n'avais jamais pensé, mais c'est pertinent.
Et d'ailleurs, si tu remettes cette fameuse peinture, tu verras que derrière Dieu, il y a des draps qui dessinent un cerveau, la tête en fait. Et c'est l'état de stabiliser tes ondes cérébrales pour te connecter à moi en fait.
Waouh! Ah, mais si ça t'intéresse, moi je suis une passionnée, tu sais. Mais alors, je te donne si ça t'intéresse aussi, Jérôme Bosch. Jérôme Bosch, il a tout codifié.
D'accord.
Il y a tout l'Apocalypse, de l'Apocalypse de Jean. Bon, encore une fois, c'est mon dada. Et j'ai une amie qui a écrit un livre super qui s'appelle L'Apocalypse. Vous allez tous y passer. J'adore.
Et ouais, l'apocalypse personnelle, les révélations sur soi-même.
C'est ça. On le sait maintenant que l'apocalypse, c'est pas du tout ce qu'on nous a vendu. C'est les révélations. Mais les révélations, c'est encore une fois, c'est pas des révélations extérieures. C'est tout ce que t'es en train de dire, tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Et Jérôme Bosch, si ça t'intéresse, si tu aimes la peinture et comme tu dis, ah bah tu vas voir, tu vas t'éclater là. Et t'en as pour
trop bien. Merci. Dernière question, Elisa. Merci pour ton temps et merci pour ta générosité. Dernière question, en rapport avec mon livre, est-ce que tu penses qu'une spiritualité se doit d'être plus ou moins badass quand même?
Alors, c'est très drôle quand j'ai vu le titre de ton livre, spécial dédicace à mes potes, parce qu'en fait, tous mes potes, bah, quand j'étais dans ma trentaine là, ils me disaient, je disais toujours, mais moi je suis une badass, moi je suis une badass, moi je suis une badass, et je me suis appelée quand même la guerrière en pâte. Hein. Ça me parle. Oui, j'adore cette notion parce que justement, ça sort de la spiritualité à bisounours.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'aime beaucoup parce que dans ton titre aussi, La guerrière en pâte, on retrouve cette notion-là de « Ok, il faut y aller quand même ». Et j'adore cette phrase, tu verras, c'est au début de mon livre, c'est dans l'introduction, c'est une phrase biblique du Christ, c'est « Je ne vous ai pas amené la paix, mais l'épée ».
Magnifique. Je l'aime.
Amour absolu, quoi. Et la guerrière en pâte, c'est ça aussi.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est très important. C'est très important parce que ça, on nous a bien endormis aussi là-dessus, avec les religions de... Oui, tu sais, d'être... Voilà, d'avoir peur de Dieu. D'avoir peur, en fait. Voilà, on nous a bien, bien endormis. Mais moi, je suis Amazir. Donc, peuple...
Mais moi aussi.
Toi aussi ?
Oui, oui, moi aussi, moi aussi.
Ah, mais
elle est berbère, ouais. Ouais, ouais.
Ah, bah, elle est
berbère. Moi, je suis chleur.
Ah, ouais, ok. Mais tu sais, il y a un vrai truc avec les femmes berbères. Hein.
Ouais, bien
avec
sûr.
Aussi, mais il y a un vrai truc de guerrier. Parce que, bon, je sais que c'était la dernière question, mais je dis juste un tout petit truc là-dessus. Spiritualité badass, là, du coup, je suis obligée de dire ça. Pour moi, les femmes. Donc tu sais, dans la Bible, pour rester là-dessus, hein, mais vous aurez compris que c'était. Parce que voilà, moi, c'est symbolique encore tout ça. Marie-Madeleine, les femmes ont été mises de côté. C'est pas que dans la Bible, hein, d'ailleurs, parce que je crois que dans le Coran aussi, n'est-ce pas ? Bon, les femmes ont été mises de côté, hein, relativement, et où, dans la spiritualité actuelle, elles sont pas mises de côté, mais elles sont quand même reléguées, encore une fois, à cet être qui doit être, voilà, dans l'accueil, la mère, toujours la mère, voilà. Alors, attention, c'est très important, mais non. C'est fini tout ça. Nous, on est là pour dire c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Les femmes, ce sont des enseignantes. Elles portent le savoir, la matrice. C'est la matrice. Elles portent la vie. Et donc, pourquoi toutes ces femmes, et ça, vraiment, c'est un message, je trouve c'est important de finir là-dessus, en plus, les femmes portent l'éveil des consciences pour moi, parce qu'elles portent la vie, la roue, l'âme du monde.
Mais chaque habitant sur cette planète de tout temps... Sa matrice première, c'est le corps d'une femme, en fait. Les femmes ont généré le monde.
Tout à fait. Et c'est pas pour rien qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette société patriarcale, au-delà, si tu veux, de ce qu'on peut... C'est bien plus grand, ça nous dépasse, c'est bien plus vaste que ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une guéguerre, en fait, homme-femme. C'est vraiment un truc de pouvoir très grand. Si les femmes vraiment récupèrent leur véritable féminité sacrée, c'est-à-dire l'enseignement, c'est-à-dire l'alchimisation de leur pôle féminin et masculin, voilà, là, le monde va changer, véritablement changer. Et là, on passera dans un nouveau monde.
Je suis à 100% alignée avec ce que tu dis, Elisa. Et merci de le rappeler parce que c'est primordial, hyper important. Et l'avenir du monde est aussi entre nos mains en tant que femme. Donc, à nous de jouer.
Et voilà, j'ai pensé ton titre de livre, tu vois. C'est beau.
Franchement, magnifique. Merci, Elisa. Et
bien, merci à toi.
Elisa, est-ce que tu veux rajouter une dernière chose avant qu'on se quitte ?
Si, bah pour finir, j'aimerais vous dire, rien ni personne ne détient votre éveil. Rien ni personne à part Dieu ne détient les clés de votre éveil. Voilà, vous êtes le créateur et seul vous et le créateur pouvez connaître votre chemin. Tout le reste, c'est des illusionnistes.
Merci, merci Elisa. Je t'embrasse fort et hâte de te rencontrer in real life, peut-être bientôt.
C'était un plaisir, Amel, en tout cas.
Merci Elisa. Spiritualista.